Radio Kapi.
Pascal Masirika à la présentation.
Au sommaire de cette édition d'information, début ce mardi de la première étape du retour à Goma au Nord Kivu des déplacés du volcan Nyiragongo, 33 bus et 5 camions sont mis à la disposition de ceux qui avaient fui vers Sake en territoire de Masisi. Déplacement des habitants de Vuhambia après les affrontements d'hier lundi entre les rebelles ougandais de l'ADF et les miliciens de l'UPLC. Vuhambia est une agglomération de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni. Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile à Beni, Jean-Paul Capitula, parlait des conditions d'hébergement de 1400 déplacés ayant fui l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma et ceux qui se sont mis à l'abri de l'insécurité dans la région. Madame, messieurs, bonsoir. Retour ce mardi à Goma, au Nord Kivu, des déplacés du volcan Nyiragongo en exécution de l'instruction donnée par le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge. 33 bus et 5 camions sont mis à leur disposition pour faciliter la première étape de cette opération qui a ciblé le site de Sake, situé à 30 km de la ville de Goma en territoire de Masisi. Reportage de Bernard Nyangi.
C'est à 9h locales que les 33 grands bus et 5 camions sont partis du stade de l'unité de Goma en direction de Sake où environ 20 000 déplacés de l'éruption attendent pour y gagner Goma. Selon le vice-gouverneur, des dispositions sont prises pour que chaque ménage reçoive une assistance de subsistance à son retour. Le commissaire divisionnaire Rémi Ekoukali Popo.
Cette population qui était estimée à 35 000, il reste sur place probablement dans les 20, 25 000. Nous avons disponibilisé 5 camions pour les effets et les bus pour la population. Et nous avons même prévu un bus pour les personnes à mobilité réduite. Celles et ceux qui monteront dans les bus tout à l'heure auront leurs vivres et des kits parce qu'on sait qu'il ne suffit pas seulement de les ramener à la maison, mais il faut également les suivre, ne serait-ce que pendant un certain temps.
Les humanitaires estimaient à plus de 40 000 les personnes qui s'étaient déplacées à la suite de l'éruption du 22 mai dernier. Plus de 160 000 étaient déjà revenus spontanément. Après l'étape de Sake, cette opération va se poursuivre sur les axes Bukavu, Rutshuru, Butembo et axe Rwanda. La priorité est accordée aux déplacés dont les maisons n'avaient pas été détruites par la coulée des laves. Les sinistrés devraient attendre un plan de contingence mis en œuvre par l'État congolais. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Les déplacés de Goma qui avaient retrouvé réfuge à Bukavu au sud Kivu commencent eux aussi à rentrer. Ce mouvement s'observe au port du lac Kivu à Bukavu où des bateaux sont disponibilisés. Les armateurs sollicitent le transport gratuit de ceux qui rentrent à Goma. Le gouvernement provincial dit planifier le retour progressif de déplacés pris en charge au site de Kavumu, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bukavu dans les territoires de Kabare précisément. À Bukavu, une correspondance d'Emmanuel Elmejo-Kabedi.
C'est depuis trois jours maintenant que tous les ports lacustres de Bukavu sont pris d'assaut par les passagers à destination de Goma. Certains se réveillent tôt le matin avec les enfants pour se procurer le voyage de Bukavu à Goma sous le lac Kivu. Ils disent retourner chez eux après l'appel du gouvernement congolais à regagner leur domicile respectif. Les armateurs du lac Kivu demandent au gouvernement de leur faciliter les moyens afin qu'ils assurent le transport gratuit des déplacés de Goma. Monsieur Prudent Mpama, président des armateurs, indique que toutes les dispositions sont prises pour contrôler tout cet engouement de passagers. Il appelle le gouvernement à multiplier les dispositions de prévention contre COVID-19 dans tous les ports. Le gouvernement provincial dit planifier le retour progressif des déplacés qui sont au site de Hadi Kivu à Kavumu. Mais chacun peut rentrer à tout moment selon sa volonté. Le transport étant assuré selon le ministre provincial des Affaires humanitaires. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retournons au Nord Kivu où des habitants se déplacent dans la zone de Vuhambia après les affrontements qui ont opposé hier lundi des rebelles ougandais de l'ADF aux miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC. Vuhambia est une agglomération située à la limite du secteur de Rouenzori et de la chefferie de Bachou dans les territoires de Beni. Le point de la situation avec vous, Martial Papimukeba.
Les campements des miliciens Maïmaï de l'IPLC à Vuhambia attaqués tôt hier lundi par des présumés ADF. Des affrontements qui en ont suivi auraient duré plusieurs heures. Cette situation a provoqué les déplacements de nombreuses populations de la région. Selon des sources administratives et de la société civile locale, les habitants de Kanyunga, Misombo, Lisasa et Kitovo ont abandonné leur village pour se déplacer vers les localités de Kalunguta, Maboya et Matata jugées plus sécures. Hier, bien que les miliciens de l'IPLC s'y soient coalisés à ceux de Nduma Defense of Congo NDC et malgré des renforts venus de Maboya, les Maïmaï IPLC, disent nos sources, auraient été chassés des lieux. Ces mêmes sources parlent aussi des dégâts matériels importants, notamment la structure de santé de Lisasa qui a été incendiée. Pour l'heure, aucun bilan de ces affrontements n'est disponible et il est difficile de connaître la situation exacte dans la zone. Beni, Martial Papimukeba, Radio Capi.
Rencontre hier lundi à Beni entre le président du Parlement de jeunes et les responsables du bureau de la MONUSCO. Au menu, la meilleure approche de collaboration pour restaurer la paix dans cette région en proie à l'activisme des groupes armés. Maître Franck Bissika affirme que son organisation veut mieux communiquer avec la mission onusienne pour éviter des incompréhensions sur son travail. Il est au micro de Joël Boufengo.
Les altercations qui ont eu à intervenir entre les jeunes et la MONUSCO sont dues surtout à la fragilité de la communication qui existait avant et que nous avions fait une demande à ce qui est le renforcement de cette communication entre les jeunes et la MONUSCO, mais également entre les jeunes et les services de sécurité. Cela pourra encore amener au rétablissement de la confiance qu'il y avait auparavant. Parce que la jeunesse l'a prouvé, la MONUSCO l'a également prouvé. Quand nous étions unis, nous avions refoulé le M23 de Rutshuru. Toutes les questions que les jeunes soulèvent et toutes les solutions qu'a proposé la MONUSCO semblent tous converger pour le retour de la paix. Alors notre appel, c'est un appel que nous avions voulu que les jeunes prennent conscience de pouvoir soutenir cette force. Imagine quelqu'un qui quitte chez lui, il laisse sa famille, tout ce qu'il a de cher et venir au Congo pour venir soutenir le maintien de la paix. Le Parlement des jeunes s'est dit s'engager aux côtés de toutes les autorités, notamment la MONUSCO, pour pouvoir renforcer le campagne de sensibilisation afin que les jeunes savent ce qui se passe.
Et puis faire le suivi de l'évaluation du plan national, du plan d'action national 2018-2022 pour le contrôle et la gestion des armes légères et de petit calibre en RDC. C'est en tout cas le travail d'une cinquantaine d'experts venus de tous les secteurs depuis ce mardi ici à Kinshasa. Leur atelier est organisé depuis aujourd'hui par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre avec l'appui de UNMAS. Ils vont ensemble étudier identifier les actions à réaliser et les tâches qui restent à exécuter d'ici 2022. C'est ce que nous explique Jean-Pierre Elali Coco.
Juste après les discours officiels, les experts se sont répartis en quatre groupes thématiques de réflexion. Le premier concerne le cadre légal et législation nationale sur les ALPC, le deuxième sur le contrôle et la gestion de ces ALPC, le troisième sur la formation et les genres et le quatrième sur la recherche et sensibilisation et vulgarisation. Dans son mot d'ouverture, le colonel Patrick Kombe Katambwe, secrétaire permanent de la CNC ALPC, a exhorté les participants au travail et à la réflexion.
On appelle quelqu'un un expert. C'est quelqu'un qu'on peut peut-être classer dans les personnes providentielles. Une personne providentielle, c'est une personne sur qui on recourt à chaque fois qu'on est en détresse. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous réunissez ici, afin de pouvoir trouver le propre de vous-même.
Le chef du projet ALPC au sein de la MONUSCO, UNMAS, RDC, Grégoire de Nantes, a parlé du soutien de sa structure à la Commission nationale.
Et nous avons soutenu la CNC pour l'élaboration du plan d'action national 2018-2022. Et nous continuons à soutenir la CNCRFC dans la mise en œuvre de ce plan d'action national.
Les recommandations et conclusions de ces assises seront présentées au cours d'un forum ce jeudi 10 juin au gouvernement et aux autres partenaires.
On enchaîne avec le Kwilu où les élèves de l'école primaire Kiala et ceux de l'Institut Sungu dans les territoires de Bulungu étudient sous les arbres au motif que leurs salles de classe et les bancs ont été incendiés par des inconnus. L'administrateur du territoire plaide pour l'assistance urgente du gouvernement provincial et des députés en vue de réhabiliter ces établissements. Bernardin Mwankimi a été joint par Irène Boma.
Il y a une école là-bas, c'est 6 bâtiments, et le village de Sungu, il y a eu des incendies involontaires, il y a eu feu de brousse, et dans le feu de brousse là, c'était vu par un inconnu, et le feu est arrivé jusqu'à ces écoles là, et dans le village, il y a 14 classes, dans le village de Sungu, 14 classes, 14 salles de classe bien sûr, 14 salles de classe, et dans notre village à Kiana, c'est 8 salles de classe, 8 salles de classe incendiées. Il n'y a pas de bancs, les bancs brûlés, les bâtiments incendiés, donc tout ça. Donc les enfants sont abandonnés comme ça. Donc ils sont là dans la belle étoile. Ils sont là sous les arbres. Nous sollicitons donc l'assistance des élus de Bulungu, du gouvernement provincial et du gouvernement central, surtout du ministère des Actions humanitaires, de pouvoir assister nos deux écoles là. Il y a l'honorable Mundanga, élu de Bulungu, qui a assisté avec 100 tonnes à raison de 50 par école.
Revenons ici à Kinshasa où la coordination pour les changements de mentalité CCM, une structure de la présidence de la République, a lancé ce mardi la campagne de sensibilisation sur le civisme routier appelée Tosa Mibeko Yanzela. Sept axes routiers constitueront la première phase de cette opération. Objectif affiché, décongestionner les grandes artères de la capitale congolaise et réduire sensiblement les embouteillages afin d'assurer la fluidité du trafic urbain. Le compte-rendu de Jean-Pierre Elali Koko.
Cette campagne a été officiellement et simultanément lancée ce mardi sur deux sites, le marché de la liberté à Massina et Kintambo Magasin. Dans une conférence de presse lundi, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CSM, Jacques Kangoudia, qu'entourait ses deux adjoints, a précisé d'emblée que sa structure ne se substituera pas à la police. Son rôle sera celui de parler à la conscience des usagers de la route, d'où l'appel lancé à la population.
Et nous voulons demander à la population de la ville de Kinshasa de pouvoir collaborer, soutenir, travailler ensemble avec nous au travers de jeunes volontés.
Le cordon adjoint en charge de l'administration et finances, Jacques Kambala Chilombo, est revenu sur la mission primaire de la CSM.
Sensibiliser le Congolais et Congolais à des valeurs positives.
Enfin, Justin Bandissana, coordonnateur adjoint chargé des opérations, a indiqué que la CSM a associé tous les acteurs, notamment de jeunes volontaires.
La police des circulations routières, la commission nationale de prévention routière, les associations des automobilistes, des motocycles, le jeune volontaire.
Notons que cette campagne durera 3 mois.
Au Kasaï oriental maintenant, le cortège funèbre qui passe par le péage du pont Lubilanji pour l'inhumation des dépouts mortels au cimetière de Mamoutiela et de Chitenge doit désormais payer une taxe de sortie et d'entrée dans la ville de Mbujimayi. Cette décision a été communiquée hier lundi aux cadres et agents de la Direction générale de recettes du Kasaï oriental par le ministre provincial des Finances. Raphaël Kalala a affirmé que cette mesure permet de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et de maximiser les recettes. Les réactions n'ont pas tardé, comme l'explique Mbujimayi Esther Ndalafina.
Au cours de cette rencontre avec les cadres et agents de la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGRKOR en sigle, Raphaël Kalala, ministre provincial des Finances, a insisté sur cette nouvelle disposition relative au paiement d'une taxe au passage des cortèges funèbres au niveau de péage au pont Lubilanji.
Il n'y a aucun texte légal qui dit que lorsqu'il y a des cortèges funèbres qui passent, on ne doit pas payer. On peut comprendre pour les corbillards, mais les restes moto-véhicules, à la mort qu'ils ont payé, pour prendre la moto, les véhicules ont mis de l'essence. Donc, au niveau de péage, quand il y a cortège funèbre, à part les corbillards, le reste doit payer.
Cette décision suscite des réactions dans la population, selon Abbé Pierre Kabamba, coordonnateur provincial du cadre de concertation de la société civile. Cette taxe n'est pas reprise dans la nomenclature.
C'est une mesure qui n'a pas tenu compte du contexte. une taxe qui va être impopulaire parce que ça n'est pas accepté par la population. Donc la population souffre. Le péage ne peut pas être placé à cet endroit-là. La raison de la fermeture de la brasserie, c'est aussi cela.
Signalons que les voitures payent en aller comme au retour 7 000 francs congolais au péage, les gros camions 20 000, tandis que les motos 5 000 francs congolais. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Radio Okapi est en deuil. Nous avons perdu ce matin, aux petites heures du matin, notre collègue et ami Augustin Mouenge. Il a travaillé quelques années comme archiviste de Radio Okapi avant de rejoindre l'équipe de JMC de la MONUSCO comme analyste et chercheur. Augustin Mouenge nous quitte à l'âge de 67 ans. Serviable, simple, très amical et croyant, c'est l'image qu'on retiendra d'Augustin Mouenge. Toute la famille de Radio Okapi et de la MONUSCO présente leurs sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le groupe djihadiste dément avoir commis le massacre de Solane. Ce groupe armé lié à Al-Qaïda condamne ce massacre qui n'a rien à voir avec l'islam. Souvenez-vous que dans la nuit de vendredi à samedi dernier, entre 133 et 160 personnes ont été massacrées. Ce groupe présente ses condoléances aux familles des victimes. L'État islamique, un autre groupe djihadiste qui opère dans la zone, n'a pas encore réagi. Au moins un soldat ivoirien a été tué lundi soir dans l'attaque de la localité de Togbo, au nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Annonce faite ce mardi matin par l'état-major des armées. Cette attaque, menée par des hommes armés, a été repoussée tout de suite par les militaires ivoiriens.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de Béni, Jean-Paul Capitula, parlait des conditions dans lesquelles vivent près de 1400 déplacés qui avaient fui l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Il s'ajoute à ceux qui ont fui l'insécurité dans cette région. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quels sont les chiffres actualisés des déplacés dans la ville de Béni?
Dans la ville de Béni, depuis début 2021, on avait un chiffre total de 17 800 ménages qui étaient enregistrés. Et après, compte de vérification, les humanitaires ont retrouvé 11 000 quelques ménages. Et à partir de la semaine dernière, de ce mois de juin, on a commencé à actualiser notre base de données et on a enregistré jusque-là 1386 ménages qui se sont ajoutés, dont parmi les 1386, ceux qui sont venus de Goma, qui ont fui la catastrophe de Goma, mais aussi et ceux qui fuient les massacres qui continuent à se perpétrer au niveau des périphéries, notamment à Maïmoya et dans les secteurs de Rwenzori. Et jusque-là, les activités restent à faire le filtrage des données pour que nous puissions avoir le nombre exact, combien sont ceux des sinistrés des volcans de Goma et combien maintenant, dans les 1386, combien sont aussi ceux-là qui viennent des massacres aux alentours de Béni.
Où sont ces déplacés?
Ces déplacés sont la plupart dans de familles d'accueil. Vous savez, c'est vraiment une particularité des loges pour la population de Béni. Toujours les ménages qui se déplacent sont accueillis. Il y a vraiment cette générosité. Et le premier humanitaire en ville de Béni, ce sont les familles d'accueil. Généralement, ceux qui sont venus de Goma se retrouvent concentrés dans la commune de Moulekera et aussi la commune de Bungulu. Il y a aussi sporadiquement dans la commune de Béou et de Rwenzori. Mais ceux qui sont venus des secteurs de Rwenzori et ceux qui sont venus dans les Maïmoya, ils sont concentrés dans la commune de Rwenzori et la commune de Moulekera et sporadiquement dans la commune de Béou et de Bungulu.
Est-ce que vous avez déjà évalué les besoins de ces déplacés qui sont nouvellement arrivés dans la ville de Béni?
Exactement, tout en faisant l'enregistrement, notre outil Kobo met l'accent sur les besoins. Vous allez comprendre que les sinistrés de Goma, de la catastrophe de Goma, les volcans, ils ont beaucoup plus besoin de l'assistance en vie. Et et de l'assistance aux articles ménagers. Ils sont venus sans habits, ils sont venus sans quoi pour faire leur literie et tout et tout et tout. Et mais aussi, il y a un besoin accru de soins de santé. Parce que la plupart, ils nous arrivent abattus, fatigués avec le déplacement. Et donc, il y a ceux qui ont l'état de santé précaire. Mais nous n'allons pas aussi oublier qu'il y a vraiment aussi ce besoin de ceux-là qui viennent, par exemple, du secteur de Rwenzori et de Maïmoya. Ils présentent un besoin aussi de leur sécurité. Parce que la plupart veulent retourner chez eux.
Les humanitaires sont-ils au courant de la situation que vous venez de décrire?
Exactement. Vous vous souviendrez que c'est à date du 29 ou du 30 où que le maire a convoqué une réunion avec tous les humanitaires et les acteurs étatiques. Et c'est à partir de cette date que nous sommes en train de nous mettre à pied d'œuvre. Donc, on travaille à commun accord avec les humanitaires, évidemment représentés par OCHA, qui a communiqué à tous les humanitaires qui ont participé. Et je vais vous dire même que cette base de données est en train d'être mise à place en collaboration avec le HCR, mais aussi avec l'appui technique de DRC. Et donc, c'est vraiment la mise en place de collectes d'informations a été faite ensemble avec les humanitaires.
Donc bientôt, ces déplacés qui sont nouvellement arrivés en ville de Béni vont recevoir une assistance humanitaire.
On ne sait pas confirmer une assistance parce que parfois, quand on enregistre, il y a une différence entre l'identification des déplacés, la compréhension des besoins et l'assistance. L'assistance ne peut que venir lorsque les partenaires se positionnent et qu'ils ont des moyens pour répondre. Mais jusqu'à maintenant, nous avons l'espoir de l'assistance du gouvernement. Parce que, au moins là, le Premier ministre, son Excellence Sambalou Kondé, a été clair en arrivant à Goma qu'ils sont venus pour soutenir les victimes de la catastrophe de Goma, l'éruption volcanique, mais aussi de voir comment assister. Donc c'est clair, nous avons l'espoir à l'assistance du gouvernement.
C'est une façon pour vous de lancer un appel à une assistance humanitaire aux déplacés de Béni?
Exactement, c'est vraiment pour moi une occasion de lancer cet appel d'assistance. Parce que les conditions dans lesquelles se trouvent les déplacés ici, c'est un peu complexe. Pourquoi je dis complexe? Ceux qui sont des sinistrés de l'éruption volcanique de Goma, ils viennent s'ajouter sur un grand nombre de ceux-là qui sont victimes des massacres perpétuels.
Jean-Paul Kapitula, merci.
C'était l'invité de Radio Kapi, le coordonnateur de la protection civile de Béni, Jean-Paul Kapitula, interrogé par Martial Papimoukeba. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noëlla Luzituka Bambi et Pelekipela Mondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Kapi.